Genèse au chapitre 1er, le verset 1er au verset, nous allons juste lire le verset 1er, et puis nous lirons le verset 26 au verset 28. Et puis nous allons prendre Genèse chapitre 2, verset 1 à 3, et puis le verset 7. Et enfin, le verset 15 à 16. Seigneur notre Dieu, nous voulons te confier ces instants. Nous prions, Seigneur, pour que ton esprit nous conduise, que tu puisses nous inspirer ta parole et qu'elle soit gravée dans nos cœurs. Seigneur, nous avons besoin de ton assistance en toutes choses. Prends le contrôle et règne dans nos cœurs, dans nos pensées. Que tout ce qui est contraire à toi soit renversé, détruit, chassé de ce lieu, au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est le chapitre 1 de Genèse 1. Et au verset 26 nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Genèse 2, verset 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Et Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Genèse 2, verset 7. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Le verset 15. Et l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et le garder. Amen. J'aimerais parler un peu ce soir du travail. On a trop tendance à parler des choses spirituelles qui sont d'ailleurs très très importantes et tendance à négliger certaines choses qui concernent la vie, notre vie, la vie que Dieu nous a donnée et qui doit se manifester et influencer aussi notre vie et ainsi que notre environnement. Et vous allez voir que, en ce qui concerne le travail et l'entrepreneuriat, Dieu, la Bible nous présente Dieu comme déjà un travailleur. Amen. Dans Genèse chapitre 1, on nous dit qu'au commencement, Dieu créa. Donc, quand on parle de travail, on voit l'activité. Pour ceux qui notent, quand on parle de travail, on voit le fait d'être en activité, le fait de créer, le fait de penser, le fait de réfléchir, le fait de mettre les choses en place, le fait d'appeler à l'existence des choses qui n'étaient pas comme si elles étaient, de commencer à un point donné et de terminer à un point donné. Et Dieu, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui travaille, c'est un Dieu travailleur. Et nous voulons voir un peu dans les Écritures quelle est notre part et quelle doit être notre compréhension par rapport au travail. Amen. On nous dit que Dieu a créé les cieux, c'est-à-dire il a pris le temps de réfléchir. Dieu, la Bible nous présente Dieu comme une personne qui a de l'intelligence, qui a une volonté, qui a un pouvoir d'agir, une personne qui peut s'exprimer. Donc Dieu a conçu un plan et dans son plan, il a voulu créer l'univers. Et la Bible dira qu'il va tout créer par sa parole et cette parole qui soutient toute chose. Alors, dans la pensée un peu latine ou dans la pensée grecque, le travail a un peu un sens, je dirais, péjoratif, parce que le mot travail donne ou signifie le faire souffrir ou encore, tourmenter, emmener les gens dans une forme de labeur. Et même quand nous sommes chrétiens, nous avons l'impression que travailler, c'est comme une corvée. Travailler, c'est comme une punition. Vous voyez, le travail est comme une punition. On aimerait bien rester là sans rien faire et que tout nous tombe du ciel, qu'on ait toutes les richesses du monde qui nous tombent comme ça parce qu'on s'ennuie au travail ou c'est trop dur. Alors que ce n'est pas ainsi que Dieu a fait conçu les choses. Le plan de Dieu, depuis le commencement, a été que l'homme puisse être à son image. La raison pour laquelle, au verset 26 de Genèse 1, il dira, Dieu dit, va dire, créons, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Cela veut dire quoi? Puisque Dieu est un travailleur, nous étant créés à son image, nous sommes aussi être appelés à travailler. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde me suit? Donc nous sommes appelés à travailler. Nous sommes appelés à créer, à fournir des efforts pour aboutir à un résultat donné. Ainsi, le verbe travailler dans l'hébreu nous donne nous avons quelques définitions du mot travail. Le mot travail en hébreu nous donne action. Le mot travail en hébreu, c'est l'ouvrage. Et le mot travail, c'est aussi occupation. Quand on parle de travail, on voit une action, on voit un ouvrage, on voit aussi une occupation. D'ailleurs, vous allez voir que quand Jésus est venu, il va dire dans Luc 2, « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Amen. Donc, nous sommes appelés à avoir une occupation. Si tu es là et que tu n'as pas d'occupation, tu vas passer à côté du plan de Dieu. Et je vais vous l'expliquer dans la parole de Dieu. Amen. Le chrétien et le travail. Le travail a aussi le sens de mission. Hein? Le travail a aussi le sens de mission, le sens de métier ou le sens de commerce. Vous notez? Ça a aussi le sens de mission, le sens de métier et le sens de commerce. Quand Dieu voit le travail, c'est vraiment dans un sens beaucoup plus large. Ça peut même aller dans le domaine sacerdotal. C'est-à-dire ceux-là qui sont mis à part pour exercer un sacerdoce. C'est aussi un travail, mais qui est d'ordre spirituel. Il y a des travaux qui peuvent être plus au niveau mental, au niveau intellectuel, au niveau de la réflexion. Il y a des gens qui travaillent juste avec leur cerveau. D'autres travaillent avec leurs mains. D'autres travaillent, comme le travail que je fais, c'est un travail dur, mais c'est un travail qui est spirituel. Amen. Mais si quelqu'un ne travaille pas, il ne peut pas entrer dans le plan parfait de Dieu et sa vie sera ennuyeuse. Et il ne pourra pas rentrer dans sa destinée et jouir du bonheur de Dieu. C'est-à-dire, Dieu nous a créés pour un but. Et lorsque le but de Dieu n'est pas atteint dans ta vie, tu auras l'impression que tu t'ennuies, tu auras l'impression que tu es venu accompagner les autres. Et il faut savoir ce à quoi Dieu t'appelle à faire et rentrer dans ce sens-là. Sinon, ça sera la souffrance. Amen. Genèse toujours chapitre 2, regardez. La Bible dit au verset 1er jusqu'au verset 3, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. » On parle ici d'un achèvement. Quand on parle d'achèvement, c'est-à-dire quelque chose avait commencé, Dieu avait commencé à travailler et il a terminé. Dans Philippiens 1, 6, il est dit, Paul dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. » Donc il y a une œuvre que Dieu a commencé dans la vie de tout un chacun de nous, le jour où nous avons accepté Jésus, un travail de salut a commencé par le Saint-Esprit. Et la Bible dit que Dieu va achever ce travail. Donc Dieu, quand il commence, il achève. C'est un travailleur. Et Paul même dira que nous devons travailler pour notre salut avec crainte et tremblement. Le salut, tu l'as reçu gratuitement, mais tu dois y travailler. Tu dois te donner les moyens. Tu dois travailler dans la vie de prière, tu dois travailler dans la communion avec Dieu, tu dois travailler dans la méditation de la parole, tu dois travailler ta vie spirituelle. Donc, Dieu voit travail, Dieu pense travail parce que c'est un travailleur. Amen. Dieu achève. Verset 2 nous dit, Dieu acheva au septième jour son ouvrage qu'il avait fait et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Donc, après un temps de travail, il a pris 6 jours et le septième jour, il s'est reposé. D'où le mot Shabbat, le sabbat qui veut dire le repos. Après un travail, on entre dans le repos. On ne peut pas se reposer si on n'a pas travaillé.
tu te reposes, quel travail as-tu fait? Et tout travail est censé donner un résultat. Et s'il n'y a pas de résultat, comment peux-tu dire que non, tu veux te reposer? Et vous verrez même que tant que nous sommes ici sur terre, la terre pour nous n'est pas un lieu de repos. Amen. Et Genèse 2, verset 7, on nous dit, Dieu va former maintenant l'homme de la poussière de la terre. Il va souffler dans ses narines un souffle de vie et l'homme deviendra ainsi une âme vivante. Et regardez le verset 15, il dit, puis Dieu prit l'homme, après avoir planté bien sûr le jardin d'Éden, un jardin en Éden, il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Alors ici nous voyons que aussitôt que Dieu crée l'homme, Dieu donne à l'homme un travail, lequel? Celui de cultiver. Quand tu cultives, tu travailles. De cultiver la terre, de cultiver le jardin et de le garder. Donc, le travail a commencé avant même que le péché n'arrive. Parce que le travail fait partie du plan parfait de Dieu.
Alléluia. Et dans Genèse 2, prenez avec moi le verset 19 à 20, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Donc là, nous voyons un autre travail que Dieu va donner à l'homme. Dieu va demander à l'homme de nommer les animaux. Et ça, c'était un travail intellectuel. Quand il voyait les lions, c'est Adam qui a nommé. Il dit, toi, à partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras lion. Alléluia. Donc là, nous voyons deux types de travail déjà au commencement, avant la chute. Un travail intellectuel et un travail manuel. Amen. Le travail. Alors, posons-nous un peu la question. La première question qu'on peut se poser, pourquoi Dieu veut-il que nous travaillions? Pourquoi? Pourquoi le travail est-il important dans le plan de Dieu? Il y a plusieurs raisons que nous allons essayer d'évoquer ensemble. Premièrement, vous pouvez noter que le travail n'est pas une malédiction. Au contraire, c'est une source de bénédiction. Le travail est devenu dur à partir du moment où l'homme a péché. Nous sommes dans Genèse chapitre 3, le verset 17 au verset 19. Et il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe et de champs. C'est à la sueur de ton front, à la sueur de ton visage, que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Amen. Donc à partir de ce texte, à partir de Genèse chapitre 3, à partir du péché, le travail est devenu comme labeur. Il y a eu la peine. Dieu va durcir, c'est-à-dire pour manger, pour avoir la rémunération de son travail, il fallait peiner. Mais à la base, le travail en lui-même n'était pas une source de malédiction. Au contraire, une source de bénédiction. Amen. Amen. Alors, Dieu veut que nous travaillions. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu travailles. Touche-le comme ça. Dis, Dieu veut que tu travailles.
Ah, c'est dur. Ah, il y a la pression. J'en ai marre, j'en ai assez. Mais bien aimé, ça fait partie du plan parfait de Dieu. Donc, tu ne peux pas te dérober de cela. Alors, prenons quatre aspects du travail selon la Bible. Genèse, de l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Nous voulons parler un peu de quatre aspects
du travail selon la Bible. Le premier aspect, vous pouvez noter, le travail fait partie de la nature humaine. Dieu n'a pas donné le travail aux animaux. D'ailleurs, Jésus le dira, regardez même les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils ne travaillent pas, mais Dieu les nourrit. Ça fait partie de la nature. Donc Dieu a confié à l'homme le travail. Donc tout homme est destiné à un travail. Vous allez voir que le premier travail qu'il avait donné, c'était le travail de l'agriculture. Et vous allez voir que jusqu'à aujourd'hui, ça reste un des métiers le plus important. Parce que ça a commencé depuis la Genèse. Aujourd'hui, ça a été développé en cultivant la terre, en travaillant la terre. L'homme a su découvrir des richesses qui étaient enfouies, telles que le diamant, l'or. L'homme a réussi par la suite à extraire même le pétrole. L'homme a réussi à avoir des minéraux, à avoir de tout ce qui est nucléaire, de tous les produits chimiques qui aujourd'hui enrichit certaines nations. Tout ça parce que l'homme a obéi. Ils peuvent être païens, mais ils ont obéi à un ordre divin. Le problème aujourd'hui, c'est que souvent, en tant que chrétiens, nous échouons parce que nous ne respectons pas les principes de Dieu. Alléluia. Et les païens qui n'ont pas le Saint-Esprit, eux, quand tu les respectes, ils voient les fruits. Et nous, on est là en train de prier du matin au soir, mais sans résultat. Et à la fin, on s'est dit, non, Dieu m'a déçu. Dieu ne t'a pas déçu, tu n'as pas respecté la parole de Dieu. Alléluia. Donc, le travail fait partie de la nature humaine. Tu dois travailler. L'homme se distingue de l'animal par le travail. Tu dois travailler la terre, tu dois travailler ton cerveau, prendre le temps de réfléchir et prendre le temps d'innover. Ça fait partie du travail que Dieu t'a donné. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, le travail est nécessaire. Deuxième aspect du travail, selon la Bible, le travail est nécessaire pour la subsistance de l'homme. Le travail est nécessaire pour la subsistance de l'homme. Quand bien même cela serait pénible, difficile. Amen. Dieu dit, tu mangeras à la sueur de ton front, de ton visage. Tu mangeras. Cela veut dire que si tu ne travailles pas, tu n'as pas le droit de manger. Alléluia. Je me dirais, oui, mais nous sommes en France, il y a des aides. Ce n'est pas la pensée de Dieu d'attendre les aides. Quelqu'un peut me dire amen? Je sais que je peux choquer quelqu'un, mais c'est la vérité. Le plan de Dieu, ce n'est pas que tu t'assoies et que tu attends que les autres te donnent. Non, tu dois travailler. Et la Bible dit, à la sueur de ton front, il faut que tu travailles pour que tu manges. Et Paul ira même plus loin dans le livre de Timothée, de Thessaloniciens, pardon. Allons-y dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 3, 2 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 10. Il dit, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Si quelqu'un ne veut pas, si quelqu'un refuse de travailler, qu'il mange, cette personne-là, qu'elle mange? Non. Qu'il ne mange pas non plus. Donc, on doit travailler pour manger. Tu dois travailler pour avoir ta nourriture. Tu dois travailler pour subvenir à tes besoins. Tu dois travailler pour, on verra tout à l'heure, pour aussi aider les autres, pour aussi soutenir l'œuvre de Dieu. Telle est la pensée de Dieu pour ses enfants. Amen. Troisième raison, troisième aspect du travail selon la Bible. Un Corinthiens chapitre 9, le verset 9 à 10, égale ce que Paul dit. Un Corinthiens chapitre 9, verset 9 à 10. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne museras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain doit fouler avec l'espérance d'y avoir aussi part. Amen. Amen. Donc, tout travail est censé donner une rémunération ou un salaire. Donc, quand on travaille, parce qu'on attend à la fin d'avoir un salaire, une rémunération. Cela veut dire que tu ne peux pas travailler et à la fin que tu n'aies rien. Et si on vous fait travailler sans vous payer, sachez que c'est la personne qui agit ainsi et en contradiction avec Dieu et se met lui-même, elle se met elle-même, cette personne, sous la malédiction. C'est une malédiction que de travailler et de ne pas être payé. C'est une malédiction que de faire travailler les gens et de ne pas les payer. Alléluia. C'est une malédiction. Deutéronome chapitre 24. La parole le rappelle aussi. Deutéronome chapitre 24. Lisons le verset 14 à 15. Il est dit, tu n'opprimeras point le mercenaire pauvre et indigent, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes. Tu lui donneras le salaire de la journée, de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Tu te chargerais d'un péché. Donc vous qui allez, Deutéronome chapitre 24, verset 14 à 15, vous qui allez créer des entreprises, vous qui allez engager des personnes, si les gens travaillent pour vous, vous êtes obligé de les payer. Autrement dit, lorsqu'ils crient à Dieu, Dieu va amener la malédiction sur vous. Et c'est le cas des gens, la plupart des hommes riches aujourd'hui qui exploitent les gens. Et la Bible dit que leur salaire crie à l'Éternel. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, à partir du premier verset. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Jacques chapitre 5. À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Car vos richesses sont pourries. Vos vêtements sont rongés par les teignes. Et votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille se lève en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Regardez le verset 4 qui nous donne la raison. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, dont vous les avez frustrés, crient, et leurs cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Donc les gens ont travaillé pour eux. Au moment de les payer, ils ne le payent pas. Et les gens commencent à crier, à pleurer. Seigneur, entends, Seigneur, vois. Et la Bible dit, ces gens-là sont sous la coupe de la malédiction. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé le droit à celui qui avait droit. Amen. Lorsque vous travaillez, vous avez droit à la rémunération. Quatrième aspect du travail. Au-delà du fait que cela est un ouvrage, une œuvre à accomplir, le travail doit être considéré comme un service. Comme un service. Selon la définition d'un dictionnaire, il définit le travail comme, il dit, car tel est le sens du travail, faire le bien, rechercher ce qui est utile aux autres, au lieu de vivre en parasite à leurs dépens. Donc, dans le travail, le but du travail, c'est de chercher à soulager les autres, à rendre service aux autres. Donc, quelqu'un qui refuse de travailler, c'est quelqu'un qui refuse de rendre service aux autres. Imaginez que les policiers disent qu'aujourd'hui, nous n'allons plus travailler. Il va y avoir des dégâts. Vous imaginez un corps de métier dit, non, nous, on ne travaille plus. Les médecins ne travaillent plus. Les femmes, les sages-femmes disent que nous, on ne va plus travailler. Toutes les femmes enceintes, qui va les aider à accoucher? Donc, au-delà du fait qu'ils travaillent, ces femmes travaillent, ces personnes travaillent, ils sont en même temps en train de rendre service. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, quand on travaille, même quand on va travailler pour Dieu,
ça doit être aussi dans la même optique, dans la même vision. C'est-à-dire, ce que je fais, même si peut-être cela ne peut pas me plaire, mais ça rend service à quelqu'un. Voilà pourquoi nous n'avons pas tous le même travail, nous n'avons pas tous le même métier, et chacun de nous doit, dans son domaine, travailler. Et c'est comme ça que la société avance, c'est comme ça que l'œuvre de Dieu aussi, quand on parlera de l'œuvre, pourra aussi avancer. 2 Thessaloniciens chapitre 3, versets 12 à 13. 2 Thessaloniciens chapitre 3, versets 12 à 13. Il dit, nous invitons ces gens. Déjà, on peut même prendre à partir de verset 11. On a lu jusqu'au verset 10 qui disait, c'est lui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Il dit, nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns, qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Là, j'ouvre une petite parenthèse. D'après la parole de Dieu, lorsqu'une personne ne travaille pas, lorsqu'une personne n'a pas une pensée de travail, elle s'occupe de futilité. Parce qu'elle n'a rien à faire. Parce qu'il n'y a pas d'occupation. Rien n'occupe sa vie. Donc, elle, cette personne, va commencer à regarder à gauche et à droite et va se retrouver dans plein d'histoires inutiles qu'on appelle les futilités. On s'occupe des futilités, des histoires qui n'ont ni tête ni queue parce qu'on tout simplement, on n'a rien à faire. Il dit, nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ, à manger de leur propre pain en travaillant paisiblement. Donc, Paul encourage les chrétiens à travailler, que chacun travaille de ses mains afin de manger dans la paix. C'est-à-dire que quelque part, le travail amène la paix dans la vie d'une personne. Ça amène l'équilibre, ça amène la stabilité. Amen. Amen, amen, amen. Le travail. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la Bible, vous allez voir que tous les hommes que Dieu a utilisé, les grands hommes étaient des travailleurs. Déjà, les enfants d'Adam et Ève, on n'a pas d'Abel, on n'a pas de Caïn. Caïn était laboureur, c'est-à-dire il cultivait la terre. Et Abel était berger. Ils avaient un travail. Lorsque vous allez dans Genèse 12, et vous lisez l'histoire d'Abraham, même si on l'appelle Abraham le père de la foi, Abraham, avant d'être père de la foi, il était d'abord berger. Il avait un travail. Genèse 13, par exemple. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Genèse 13, le verset 2. Là, Abraham est sorti de l'Égypte. Et la Bible nous dira que Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il était très riche en troupeaux. Le père de la foi était riche en troupeaux, en argent et en or. Et par là, nous comprenons que parce qu'Abraham travaillait, il a pu jouir de la bénédiction de l'Éternel. Donc le travail nous permet de vivre et d'expérimenter la vraie bénédiction de l'Éternel. Abraham n'était pas là assis en attendant, j'attends les promesses. Très souvent, on a l'impression que les choses de Dieu vont tomber du ciel comme ça. Le ciel va s'ouvrir et puis les choses tombent comme ça. C'est faux. Si on ne se lève pas pour travailler, rien n'arrivera. Amen. N'ayez pas une foi, démesurée ou désorientée. On croise les bras et on s'attend un jour à se réveiller riche, à se réveiller en ayant un certain niveau. C'est faux. Le père de la foi, il a eu les promesses, mais tout au long de son parcours, Dieu a permis qu'il puisse acquérir certaines richesses, entre autres les troupeaux, et il a su gérer ses troupeaux. Et par la suite, il avait même des serviteurs qui géraient ses troupeaux. Il était intelligent, il a su travailler. Et dans le travail, Dieu l'a béni. Bien-aimé, n'oubliez pas que la bénédiction est toujours conditionnée à l'obéissance. Deutéronome chapitre 28. Pour être béni, il faut être obéissant. Or, dans le domaine du travail, si on obéit à Dieu et dans ce domaine, Dieu utilisera notre travail pour nous bénir. Jamais le contraire. Amen. Amen. Abraham a donc travaillé, il a exploité son intelligence, il a cherché à développer son activité, il a vu les résultats. Vous avez un autre exemple, l'exemple d'Isaac, le fils d'Abraham. Isaac, qui avait reçu d'Abraham l'héritage. Quand Abraham est mort, il a laissé, comme c'était lui le fils de la promesse, il lui a légué l'héritage. Mais vous allez voir que malgré l'héritage que Isaac avait, Isaac ne s'est pas dit, bon, moi je suis héritier. Moi je suis héritière, j'hérite des maisons de mon papa. J'hérite des richesses de ma mère. Donc je n'ai pas besoin de travailler. Et vous allez voir, la plupart des héritiers qui n'ont pas la notion du travail, en général, ils dilapident tout et ils ne restent avec rien. Papa avait des richesses, maman avait des richesses, ils avaient un compte en banque rempli et à sa mort, les enfants restent même pas 2-3 ans, plus rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu la notion de travail. Alléluia. Alléluia. Isaac était héritier, mais Isaac a travaillé. Genèse. Regardez Genèse chapitre 26. On nous dit, dans Genèse chapitre 26, le verset 12 au verset 13, il dit, Isaac sema dans ce pays, et le pays des Philistins, et il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla en s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Amen. Donc, il ne s'est pas contenté de tous les trésors de l'héritage de son père, mais au contraire, lui-même a travaillé. Il a pris le temps de semer. Quelqu'un qui sème attend à récolter. Ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec son allégresse. Alléluia. Celui qui sème peu moissonnera peu. Donc quand on travaille, quand on sème, on s'attend un jour à récolter. S'il devait s'appuyer sur l'héritage de ses parents, il n'allait pas travailler. Bien aimé, c'est la preuve palpable que la bénédiction de Dieu par le travail nécessite toujours le travail. Si on veut voir la main de Dieu, il faut que l'on travaille. Troisième exemple que j'aimerais vous donner, Jacob. Jacob. Notez quelques références que vous lirez à la maison. Genèse chapitre 27. Genèse 27, versets 41 à 44. Genèse 29, versets 15 à 30. Et puis Genèse chapitre 31, verset 1er. Dans ce texte, nous voyons Jacob, lorsqu'il est parti de la maison de son père, vous connaissez l'histoire, il avait volé la bénédiction. Et il est parti sans rien avoir à la main parce qu'il fuyait la colère de son frère Ésaü. Ésaü qui a su que Jacob avait volé la bénédiction, il cherchait à le tuer. Alors il est parti en courant. Donc il est parti sans rien avoir. Mais regardez comment cet homme, Dieu a réussi à le bénir, parce qu'arrivé à la maison de Laban, il a commencé d'abord à travailler. Bien évidemment, il travaillait d'abord pour avoir Rachel. Vous connaissez l'histoire. Et après 7 ans, Laban lui dira, non, ce n'est pas la coutume chez nous de marier la cadette avant l'aînée. Donc, du coup, on va lui donner Léa. Jacob était obligé de travailler encore 7 années supplémentaires pour avoir Rachel. Et si vous regardez au chapitre 31, regardez ce que Laban va dire ici. Genèse 31, verset 1er. Donc Jacob était tellement intelligent qu'il a travaillé, il a réussi à avoir même toutes les richesses qu'il avait trouvées là-bas. Jacob entendit ses propos, les propos des fils de Laban, qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père, car c'est avec le bien de notre père qu'il a acquis toute cette richesse. Alléluia. Donc tellement qu'il était là-bas, il était intelligent. Ce que j'aime avec Jacob, c'est que c'était un garçon intelligent qui savait utiliser son intelligence. Alors la question que je vais te poser, est-ce que tu arrives à utiliser ton intelligence pour aboutir à quelque chose, pour travailler avec ton intelligence? Il y a des gens qui ont reçu le don de Dieu que par l'intelligence. D'autres ont reçu le don de Dieu que par les choses manuelles. Et tout ce qui touche, ça marche. Il faut savoir ton domaine. Et avec cela, alors qu'il n'avait rien, il a travaillé. Il est sorti de la maison de Laban avec beaucoup de richesses. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que tel que tu es, même si tu es pauvre, tu n'as rien, tu peux devenir un jour riche. Alléluia. Ce n'est pas un évangile de prospérité qui pousse les gens à s'attacher aux richesses. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux être, tu ne peux rien avoir, mais parce que tu as la notion de travail, je dirais, d'entrepreneuriat, tu peux commencer à créer des choses et partir de rien pour aboutir quelque part. Et Dieu ne veut pas que les enfants de Dieu restent en arrière. Et c'est le cas aujourd'hui, malheureusement. Voilà pourquoi, parce que dans la vie courante, on a du mal à percer, on a du mal à devenir riche, à avancer. Cela se traduit aussi dans l'église. Et les chrétiens sont improductifs parce que déjà socialement, naturellement, ils ne produisent pas. Ce que nous sommes dans la vie courante, c'est ça qui va se transposer dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre à quelqu'un? Alléluia. Dieu n'a jamais appelé les gens qui étaient paresseux. Dieu n'a jamais, lisez toute la Bible, appelé des gens oisifs qui n'attendent, qui n'ont rien à faire. Tu attends quoi? Ah, j'attends que Dieu m'appelle. Hein? Parle, ton serviteur attend. Non, toutes les personnes que Dieu a appelées, ils travaillaient. Dis à ton voisin, travaille. On va enterrer l'esprit de chômage à l'église au nom de Jésus-Christ. Tu dis pas amen avec moi? Alléluia. Le contraire du travail, c'est la paresse. Et regardez un peu, avant d'aller plus loin, ce que la Bible enseigne sur la paresse. Il y a trop de paresseux parmi les enfants de Dieu. Alors que le Saint-Esprit devait nous rendre plus courageux que les païens. Les païens se lèvent tôt. Les chrétiens se lèvent à 10 heures du matin. À 10 heures. Alors que... Surtout quand je vais en Belgique, je suis étonné de voir les... Là-bas, les gens se réveillent même à 13h, 14h, 15h. Ah! Mais la journée va finir, toi tu te réveilles maintenant. Il n'a rien à faire. Donc, il passe son temps à parler, puis à la fin du mois, il sait que le gouvernement va virer une somme d'argent. Et puis, bon, voilà, il a de quoi s'habiller, il a de quoi payer sa petite une maison sociale. Et il se contente de ça. Lui, dans toute sa vie, c'est qu'il se bat même pour les logements sociaux. Les logements sociaux. Bien-aimé, si tu as un logement social, ça doit être momentané. Si tu as des trucs qu'on te donne, des choses qu'on te donne par le gouvernement, les aides, ça doit être momentané. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que tu ne dois pas te contenter de ça. Dis que bon, moi, c'est bon, ça me suffit. Va travailler. Non, parce que si je vais travailler, non, mes ascétiques vont couper. Et après, il y en a qui déclarent, non, femme seule alors qu'il est marié. Vous voyez, toutes les stratégies là, c'est en réalité un esprit qui est contre, qui n'est pas dans la pensée de Dieu. Amen ou pas amen? Je ne sais pas si vous allez toujours continuer à m'aimer, ces derniers jours, je vous chauffe. Et je vais vous chauffer encore. Amen. Qui ne travaille pas ici? Ok. Ça va changer. Il y a ton ami, encore quelques minutes, ça va changer. Ah, tu lui as pas dit, dis-lui avec conviction, encore quelques minutes, ça va changer. Qui croit que ça va changer là? Ah, il faut que ça change. Hein? Tout le monde doit travailler. La paresse, dis à ton ami la paresse. Allons-y un peu dans Proverbe. Allons-y dans Proverbe 6 déjà. Proverbe chapitre 6. Lisons juste le verset 6. On peut même lire jusqu'au verset 11. Va vers la fourmi, paresseux. Donc Dieu dit à l'homme, regarde la fourmi. Donc à partir d'aujourd'hui, quand tu vas rentrer, cherche les fourmis dans ton appartement ou dehors. Commence à observer un peu comment la fourmi fonctionne pour que tu deviennes sage. Il dit, considère ses voies et deviens sage. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Regarde la fourmi et tu vas devenir sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché?
Quand te leveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. La paresse a pour résultat, conséquence, la disette. La paresse a pour conséquence le manque. La paresse a pour conséquence la pauvreté. Et laissez-moi vous dire, Dieu est contre la pauvreté. Oui, Dieu est contre la pauvreté. Parce que Dieu lui-même est riche. On nous a mal fait comprendre les choses. Je ne suis pas dans le cas de l'église de Laodicée qui néglige la vie spirituelle au détriment du matériel. Je ne parle pas de cela. Je parle d'une mentalité qu'on a, d'une conception des choses qu'on a, pour se contenter que de petites choses, alors que Dieu a mis en nous des capacités, des potentiels pour faire plus, pour aller loin. Alléluia. Alléluia. La pauvreté est un esprit. La Bible dit que Jésus-Christ lui-même, pour nous sauver, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous. Donc si toi, Dieu, te fais riche, c'est pour que tu puisses t'appauvrir pour les autres. On en parlera tout à l'heure. Le principe du travail, le principe de l'abondance, ce n'est pas seulement pour toi, pour amasser des richesses sur richesses, non. Mais c'est pour que tu sois un canal de bénédiction pour les autres qui seront dans le besoin. Oh, si tout le monde est au même stade, si tout le monde n'a rien, qui va aider l'autre? Ma soeur, je n'ai rien, aide-moi à moi aussi. Tout le monde, au stade zéro, au stade 1, qui va aider l'autre? Il faut qu'il y ait égalité. Alléluia. Alléluia. La paresse. Proverbes chapitre 14, verset 23. Lisez Proverbes, vous allez voir, il y a plein de textes comme ça qui nous parlent de la paresse. Proverbes 14, verset 23 qui nous dit: tout travail procure de l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Là où il n'y a pas le travail, il n'y aura jamais l'abondance. Toute paresse amène la disette. Alléluia. Même si tu n'as pas de papier, même si tu n'as pas de quoi, soi-disant administrativement, pour te... Il y a toujours une solution, parce que Dieu t'a donné de l'intelligence. Va puiser là, tu vas voir. Prie Dieu, démonte l'orientation, tu verras. Amen. Il y a un autre texte d'ailleurs qui dit, le paresseux dit qu'il y a un lion dehors. Il ne va pas aller sortir. Il faut sortir. Non, ça ne va pas aller. Tu cherches un travail. Tu le cherches comment? Tu n'envoies jamais de CV? Tu ne fournis pas d'efforts? Tu ne sors pas de ta maison pour aller frapper les portes? Tu ne quittes pas ta position pour aller demander aux gens? Il y a beaucoup de travail qu'on peut avoir aussi par des relations. Est-ce que tu ne connais pas quelqu'un? Quelqu'un ne connaît pas quelqu'un? Tu ne fais rien, tu attends comme ça. Au mois de janvier, au même stade, juin, même stade, décembre, même stade. Et tu pries, Dieu va faire encore. Mais quand tu te regardes toi-même, ça ne va pas. Et les pauvres, malheureusement, ont tendance à rejeter la faute sur les autres. Et quand ça ne va pas, tu dis, non, de toute façon, c'est la faute de cette église-là. Oh, est-ce que c'est une église qui donne le travail? Une personne dans cette église avait fui l'église. Pourquoi? Parce qu'elle venait que je prie pour elle pour aller du travail. Je dis, ok, je l'envoie à des endroits, elle ne part pas. J'ai des contacts, va là-bas, elle ne part pas. Elle dit, non, on ne s'occupe pas de moi ici, le pasteur n'est pas... Je dis, mais attendez, Dieu ne m'a pas établi pour donner du travail. Je ne suis pas le pôle emploi. Alléluia. Non, il faut que les choses soient bien comprises. Tout ça, c'est quoi? C'est la mentalité de dépendance. Or, dans l'attitude d'un pauvre cherche à dépendre des autres. Voilà pourquoi les pays africains ne dépendent que des pays occidentaux. Alors que le pays est riche, sur le plan, la terre est tellement riche, le sous-sol est tellement riche, mais les habitants sont pauvres. Allez à Jérusalem, allez en Israël, vous allez voir.
Israël n'a rien. Mais regardez la vie qu'Israël mène. Et allez dans mon pays au Congo, mais vous allez pleurer. On vous dit un des pays les plus riches. Quand vous voyez les gens, la vie des gens, c'est la misère qui se dessine à leur visage. Pourquoi? Parce que tout le monde attend. Tout le monde attend l'oncle. Si tu as eu le malheur de réussir dans la vie, tous les yeux sont braqués sur toi. Et les gens ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas fournir des efforts. Ils attendent qu'on leur donne. Ça, c'est la mentalité de la pauvreté. Que Dieu ne veut pas. Des paresseux. Alléluia. Il y a des personnes même à qui vous allez payer l'université, payer l'éducation. Ils y vont, ils font des blagues. Ils échouent à l'école. Et puis, ils vous tiennent responsable de leur échec. C'est ça un pauvre. C'est ça un paresseux. Un paresseux n'est pas responsable de ses actes. C'est toujours la faute des autres. Et Dieu est contre ça. Dis à ton ami, Dieu est contre ça. Dieu est contre ça. Dis-lui. Alléluia. Dans 2 Rois, chapitre 4, vous allez lire à la maison, le verset 1 au verset 7, on nous parle de l'histoire d'une femme qui était veuve et qui avait des enfants, et les créanciers sont venus pour arrêter cette femme et ses enfants et les rendre esclaves. Alors que le mari de cette femme était prophète, serviteur de Dieu. Et la Bible même reconnaît qu'il craignait l'Éternel. Donc sa crainte de Dieu était reconnue. Mais il n'avait pas la notion du travail. La Bible dit que tout travail apporte de l'abondance. Mais lui, à sa mort, il a laissé les dettes. Lisez ça à la maison. Il est mort, il a laissé des dettes. Et c'est une malédiction lorsque vos parents vous laissent des dettes. Et je donne un conseil ici à tous ceux qui sont parents. Arrangez-vous pour que vous n'ayez jamais de dettes. Même après votre mort. Au jour d'aujourd'hui, vous avez des assurances vie, des assurances décès, toutes ces choses. Arrangez-vous pour que, après vous, que les enfants restent en bonne situation financière. Alléluia. Parce que nous voyons souvent ces cas. Papa est mort et c'est l'enfant qui prend le poids de tout. La pierre tombale, tout ce qu'il faut. Et après, on s'en sort plus. Bien aimé, c'était le cas de cette femme avec ses enfants. Et on va appeler Élisée. Élisée va venir, Élisée va dire à cette femme, « Qu'est-ce que tu as sur toi ?»« Non, ta servante n'a rien que un vase avec un peu d'huile. » Regardez la pensée, pour vous montrer la différence entre la mentalité de pauvreté et la mentalité d'abondance. Tout travail procure l'abondance, mais lorsqu'on est paresseux, lorsqu'on a la disette, on est réduit sur le plan, au niveau de son esprit, on peut même pas se rendre compte de ce qu'on a entre nos mains qui peut être valorisé. Elle avait quelque chose, elle pouvait faire quelque chose avec ce qu'elle avait, mais elle ne voyait pas, elle ne savait pas, et elle pleurait sous le joug, sous le poids des oppresseurs, des créanciers. Élisée lui dit amen, et elle y amène. Elle dit va renferme-toi dans ta chambre et essaie d'emprunter plusieurs vases et tu vas verser dans ces vases de l'huile jusqu'à ce que qu'il n'y ait plus de vases disponibles. Et si vous lisez l'histoire, vous allez voir que c'est ce que la femme a fait. Et elle a eu plusieurs vases, elle a pu récolter beaucoup d'argent. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle les a vendus, elle a payé ses crédits. Donc nous voyons ici deux attitudes. L'attitude d'Élisée qui était un homme oint, tel Christ. Et l'attitude des personnes qui ne voient pas les choses comme le Seigneur. Des personnes qui sous-estiment ce que Dieu a déposé en eux ou ce qu'elles ont entre leurs mains qui peut leur amener aussi de l'abondance. Alléluia. Alléluia. Ces deux attitudes sont très importantes. Vous allez voir que même lorsque Jésus est venu, avant de multiplier le pain, il a demandé aux gens, qu'avez-vous? Qu'est-ce que vous avez? Donc tu peux, avec ce que tu as, développer quelque chose. Analyse bien, peut-être que tu n'as pas encore eu le temps de bien t'analyser toi-même. Regarde, peut-être que tu n'as pas encore eu le temps d'analyser ce que tu as. Il y a des gens qui ont commencé des commerces avec un fonds de commerce de quoi? Même pas 50 euros. Mais aujourd'hui, ils ont développé leur activité, ils sont devenus, ils ont atteint un certain niveau. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'avec le peu, je peux être fidèle, je peux travailler et je peux fructifier cela. Pourquoi? Parce que dans la logique du travail, Dieu multiplie.
Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir?
Dans la logique du travail, Dieu multiplie. Or, Dieu ne peut pas multiplier si tu n'as rien. Donc forcément, tu as reçu quelque chose.
Tu as peut-être l'intelligence. Tu sais peut-être bien parler. Tu as peut-être des bons yeux. Amen. Tu marches peut-être bien. Quelqu'un d'autre, on peut même t'acheter. Tu joues bien au foot. Regarde les footballeurs. C'est quoi leur travail? Leur don. C'est bon. Le pied là. Tu coupes le pied, c'est fini. Il ne sera plus milliardaire. C'est fini. Donc tu as quelque chose. Il faut le travailler. Amen. Amen, 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 amen.
Deutéronome chapitre 28.
Bien-aimés, Dieu ne bénit pas la paresse, les paresseux. Dieu bénit les travailleurs. Deutéronome chapitre 28, nous lisons le verset 8. Dieu dit, il est écrit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Et il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Donc là, nous voyons un ordre. Dieu ordonne à la bénédiction. Oh, ça c'est la dimension de la prière où tu dois entrer. C'est-à-dire où Dieu lui-même donne l'ordre à la bénédiction de te poursuivre. Tu ne dis pas amen. Moi, je dis amen pour moi-même. Donc Dieu ordonne à la bénédiction. C'est-à-dire toi, tu marches, toi, tu suis les ordres. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Quels sont les ordres de Dieu? Toi, tu obéis à Dieu et la bénédiction te suit. Au point même, tu peux dire, Seigneur, c'est trop, diminue un peu. Mais le problème, c'est qu'au point où tu en es, tu ne peux pas dire que c'est trop parce que c'est tellement peu. Alléluia. Alléluia. Et là, j'aimerais nous ressortir juste deux petits points avant de clôturer. Sur le travail, je veux nous parler un peu du Nouveau Testament, les autres aspects par rapport au travail. Donc, d'après ce texte, nous voyons ceci, nous voyons deux choses. La première chose, Dieu dit, il va ordonner la bénédiction d'être avec nous, dans toutes nos entreprises, dans toutes nos entreprises. Donc, nous voyons ici la notion de pouvoir créer quelque chose, de pouvoir entreprendre quelque chose. Un homme de Dieu a dit, dans la vie d'un homme, si un homme veut s'épanouir, il ne doit pas se contenter d'avoir une seule source de revenus. Je ne me rappelle plus du nom du prédicateur. Il a parlé du jardin d'Éden où il y a le fleuve sortait du jardin. La Bible dira que ce fleuve se séparait en quatre bras. Et les quatre bras ou les quatre sources servaient à arroser le jardin. Amen. Donc, une seule source ne suffit pas. Vu les besoins personnels, vu le besoin familial pour ceux qui sont mariés, vu le besoin des parents, parce que si vous travaillez, vous devez d'abord subvenir à vos besoins, aux besoins de votre famille, aux besoins de vos parents, et ensuite aux besoins, aussi le besoin de l'Église, de l'œuvre de Dieu, et aussi pouvoir avoir de quoi aider les autres. Mais si tu es là, tu gagnes le SMIC, par exemple. Que peux-tu faire de consistant avec? D'où la notion d'entreprendre. Amen. Et Dieu a mis ça en nous. Et Dieu veut que nous puissions les développer. Ça est là en toi. Ne pense pas que je parle à ton voisin. Je te parle à toi. Dieu a mis ça en toi. Il y a quelque chose que tu dois juste découvrir et commencer à exploiter. Et plus tu vas le découvrir, plus tu vas l'exploiter, tu vas voir que Dieu va commencer à t'ouvrir d'autres sources qui pourront t'alléger ou te faciliter les choses sur cette terre. Amen. Lorsque nous prions, nous sommes forts spirituellement. Mais la prière ne te donnera pas toujours l'argent, les moyens. La prière va te donner les dons spirituels. Oui, tu auras les charismes, tu auras le feu, l'onction. Mais pour avoir, sur le plan matériel, financier, vous avez la voie principale qui est autre la voie de la sémence, mais la voie du travail. Amen. Amen. Donc c'est la voie par laquelle Dieu rend prospère ses enfants. En l'entrepreneuriat, le travail. Et le travail et l'entrepreneuriat, les deux choses sont intimement liées. Et par là, Dieu va utiliser le principe de la multiplication. C'est un Dieu qui multiplie. Ça va, c'est clair? Est-ce que c'est clair? Bien. Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. Nous lisons le verset 1er au verset 3. La Bible dit, Jésus partit de là, il se rendit dans sa patrie, ses disciples le suivirent. Et quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendirent, qui l'entendaient étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent donc ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Regardez le verset 3. N'est-il pas le charpentier? Donc, les gens connaissaient Jésus pour être le charpentier. Et c'est qui un charpentier? C'est un travailleur. Il travaille quoi? Le bois. Il fait les meubles. Si, admettons, Jésus-Christ, avant d'entrer dans son ministère, était dans notre époque, on cherche quelqu'un pour faire l'estrade, on va chercher Monsieur Jésus. Monsieur Jésus, on a besoin de quelqu'un qui va faire l'estrade. Il vient avec son marteau, ses clous, tant, 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 tant. C'est ça le charpentier. On a besoin d'une chair en bois comme celle-ci. Jésus vient. Il avait un métier, frère. Donc, il n'est pas né en attendant le ministère. Il n'est pas né en attendant que les choses tombent du ciel. Il avait un métier. Actes chapitre 18. Jésus était un travailleur. Jusqu'à l'âge de 30 ans, quand il est rentré dans son ministère, il travaillait. Actes chapitre 18, nous lisons le premier verset jusqu'au verset 3. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe et il trouva là un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie et avec sa femme Priscille. Parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome et il se lia avec eux. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et il y travailla et il fabriquait des tentes. Paul, à Corinthe, dans la maison de Aquilas et Priscille, travaillait. Et la Bible dit, il faisait quoi? Il fabriquait des tentes. Paul avait un métier. Quoiqu'il était ministre de Dieu, quand il avait des temps libres, il travaillait. Et il le dira encore plus loin dans Actes 20. Le verset 33 au verset 35, il dit, « Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. » Donc les mains de Paul ont d'abord pourvu à ses besoins. Pourquoi travailler? Pour pourvoir à ses besoins. À un certain âge, on ne doit plus dépendre des parents pour tout et n'importe quoi. Alléluia. Vous avez en Afrique, par exemple, dans certains coins, un homme ou une femme âgée d'un certain âge, 30 ans, 35, 40, et même pour acheter une baguette à la boulangerie, il a demandé l'argent à maman. Maman, est-ce que je ne peux pas avoir l'argent pour acheter la baguette? Pour acheter une paire de chaussettes, il faut demander. Je ne parle pas de la situation où on cherche le travail, où on n'a pas. Mais parce qu'elle ne veut pas travailler, elle se contente de la situation des parents. Je connais même dans ma famille des frères dont les parents étaient très riches, mais qui n'arrivent pas à percer dans la vie parce qu'ils s'attendent à ce que l'un des parents meure pour recevoir l'héritage. Quelle malédiction! Vous êtes là, vous imaginez, votre enfant attend que vous partiez, enfin, vous mouriez,
pour récupérer la maison, quoi. C'est grave.
Alléluia. Il faut travailler. Paul dit ses mains ont pourvu et aux besoins de ceux qui étaient avec moi. Et il dit, je vous ai montré de toutes les manières que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Alors, pourquoi faut-il travailler? Pourquoi? Prenons quelques raisons et nous terminons là. Pourquoi faut-il travailler? Donc, d'après Actes 20, 34, déjà pour pourvoir à ses besoins. On l'a vu tout à l'heure, sa propre subsistance. Pourvoir à ses besoins. Donc, tu ne peux pas pourvoir à tous tes besoins si tu ne travailles pas. Combien de nous avons des besoins? On veut les satisfaire, mais on n'a pas les moyens. Et vous avez plusieurs types de besoins. Vous avez des besoins fondamentaux. Manger, vêtir, boire. Vous avez des besoins de sécurité, avoir un toit. Amen. Avoir une bonne santé. Plusieurs types de besoins que nous avons. En Afrique, il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont même pas, ils n'ont même pas un peu d'argent en cas de mal de tête, de s'acheter ne serait-ce que le petit Doliprane. Et ils meurent à cause de ça. Pourquoi? Pas de moyens. Pourquoi? Parce qu'on ne travaille pas. Alléluia. Alléluia. Pour subvenir à nos besoins. 1 Thessaloniciens chapitre 4 aussi le dit. 1 Thessaloniciens 4 verset 12. Vous le notez? Pourquoi faut-il travailler pour subvenir à nos besoins? Donc le travail est important. Tu ne peux pas subvenir à tes besoins tant que tu ne travailles pas. Paul dit, vous devez mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos propres mains, comme nous vous l'avons recommandé. Donc Paul a enseigné sur ces choses. Il dit, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Or, très souvent, nous avons besoin, au jour d'aujourd'hui, dans le contexte européen, nous avons besoin de la CAF, on a besoin de je vois des regards déjà, gloire à Dieu, alléluia, de tous ces systèmes. Si ce système s'écroule aujourd'hui, c'est fini. La grève, bien aimé dans le Seigneur, si c'est ton cas, si c'est mon cas, ça doit commencer à changer. Avec ou sans CAF, je vis. Quelqu'un ne dit pas amen? Ah, on m'a coupé la CAF. Pasteur, ça va pas, la CAF est partie. Ah, le RSA, je connais pas, hein, excusez-moi. Le RSA est parti, mais je vais faire comment? La fin du mois arrive. Hein? Pasteur, l'allocation. Travaillons. Et d'ailleurs, même les allocations des enfants, je ne sais même pas si les enfants touchent leurs allocations. Mais bon, ça va souvent dans la poche des parents. Ou d'autres, ça construit des maisons en Afrique. Amen. Pourquoi travailler? Pour prendre soin aussi des autres. Donc, ton travail ne doit pas seulement se limiter à toi. On gagne pain, je mange, c'est tout. Mais tu dois aussi prendre soin des autres. Tu dois être capable, avec ton travail, quand tu demandes à Dieu, bénis-moi d'un travail, c'est aussi pour prendre soin des autres. Alléluia. C'est ce que Paul dit dans l'acte qu'on a vu. Ses mains ont pourvu à mes besoins et aux besoins de ceux qui étaient avec moi. Ils étaient en mission et Paul a pu le soutenir, le supporter. Et en parlant des autres, principalement, il est question d'abord de sa propre famille. Principalement. Tu ne peux pas avoir des enfants et demander à quelqu'un d'autre de les nourrir. Comme dans certaines coutumes, lorsque vous travaillez, vous prenez la charge de toute la famille, les neveux, les tontons, les nièces, tout ça, tout le monde vient pour qu'elle soit votre charge. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu enseigne. Avant d'avoir un enfant, il faut être capable d'abord de savoir se nourrir et par la suite nourrir sa famille. 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, principalement de ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle et il a renié la foi.
Alléluia.
Donc avant de se marier, on doit s'assurer qu'on a de quoi subvenir aux besoins. Quelqu'un m'a dit, non, moi je ne veux pas comme ça par la foi. Et après il a été dehors, on l'a mis dehors, il est retourné chez sa maman. J'ai dit, mais non, ça ce n'est pas la foi, tu fais honte à l'évangile. Tu fais honte à l'évangile. On va dire quoi, c'est comme ça qu'on vous prêche? Non, il faut d'abord être capable, être en mesure de gérer. Pourquoi travailler? Pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ça aussi, c'est une raison. Si personne ne travaille ici, qui va soutenir l'œuvre de Dieu? Personne. Parce que tu n'as pas. On ne donne que ce que l'on a. Mais si tu n'as pas, tu vas donner quoi? Parce que tu n'as pas. D'où la raison de travailler. Et Dieu veut que l'on travaille pour qu'on soutienne son œuvre. L'œuvre de Dieu ne sera pas soutenue par d'autres personnes. Ce n'est pas nous qui faisons partie de cette œuvre. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 9, vous pouvez noter la référence. 2 Corinthiens chapitre 9 en parle. 1 Corinthiens 9 aussi en parle. Et quand je parle de soutenir l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, vous avez aussi les frères et sœurs qui sont dans le besoin. Un frère peut traverser une situation difficile et les bien-aimés doivent aussi venir en aide d'après la parole de Dieu. Alléluia. Vous trouvez ça dans le livre de Hébreux, par exemple, chapitre 13, verset 16. Hébreux 13, verset 16 nous en parle. On nous parle des actes de bienfaisance. Soutenir celui qui est dans le besoin. On ne peut pas être une église et on a des personnes, par exemple, qui sont là, qui n'ont rien à manger. Et on n'est pas sensible. Ce n'est pas l'amour. L'amour, ce n'est pas va, Dieu va te bénir, Dieu est avec toi. On n'aime pas en parole, on doit aimer avec les actions. Alléluia. Si on a à manger, on donne à manger. Ce n'est pas de l'assistanat, on n'encourage pas la situation, une situation pareille. Mais au moins, on assiste pendant un temps, sachant que la personne va s'en sortir demain. Mais il faut que l'Église, les frères et sœurs, sachent se soutenir. Est-ce que tu t'inquiètes même de l'autre? Est-ce que ça t'arrive même de penser, est-ce que mon frère là, ça va? Est-ce que ma sœur là, ça va? C'est ça le véritable amour que Dieu veut qu'on puisse avoir. Alléluia. Pas en parole, oh Jésus, je t'aime, on se roule au sol. Oui, mais en réalité, dans la vie pratique, on a du mal à vivre ces choses. Or, lorsqu'on travaille, on peut se dire, bon, j'ai à cœur de soutenir telle sœur. Tu prends une petite enveloppe, ma soeur, petite, quelque chose pour toi. Ah, mon frère, quelque chose pour toi. Parce que tu sais qu'il est dans le besoin. Il est dans une situation difficile. Et Dieu demain l'aidera, le bénira. Et la personne qui sera bénie de Dieu fera de même pour d'autres. Et c'est ainsi que nous pouvons nous entraider en tant que la famille les enfants d'un même père. Une même famille et issue d'un même père. On doit travailler aussi pour soutenir ceux-là qui nourrissent spirituellement les enfants de Dieu. Galates chapitre 6, verset 6. Galates 6, verset 6. Il dit que celui à qui l'on enseigne l'évangile, l'on enseigne la parole, fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est la parole de Dieu. Amen. Donc, dans l'œuvre de Dieu, les prédicateurs doivent être aussi soutenus par ceux-là qui travaillent. Parce qu'eux, ils ont un travail qui est plus spirituel. Et ils nourrissent la foi de ceux-là qui vont travailler chaque jour. Alléluia. Et qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nous voyons, bon, le prédicateur prêche. Ah, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Ah, on était bénis, hein, c'était fort, vraiment. Mais bon, toi, tu rentres, tu manges, mais tu ne sais pas si lui, il va manger comment. Alléluia. Non, mais c'est la vérité, c'est la parole de Dieu qu'il dit. Et on ne peut pas l'enlever de la Bible. 1 Corinthiens chapitre 9, regardez ce que Paul dit à propos. 1 Corinthiens chapitre 9, il dit au verset 11, « Si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, C'est par la prédication, on sème des biens spirituels, on donne la connaissance, on prie pour la délivrance, la guérison, on apporte les conseils. Un grand travail spirituel est fait qui nous sort peut-être certainement des blessures, qui nous sort de l'enfance et qui nous amène dans la maturité. Et d'ici, nous avons semé parmi vous des biens spirituels. Est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Parce que les chrétiens de Corinthe étaient orgueilleux. Ils ne voulaient pas soutenir le ministère de Paul. Paul, d'ailleurs, était soutenu par ceux de la Macédoine, ceux-là même qui étaient pauvres. Alors qu'eux, ils avaient les moyens, ils refusaient de le soutenir par orgueil. Paul était obligé de se justifier. Et il établit ici une règle, il établit ici, un fondement par rapport au travail. Il dit, mais nous avons semé. Ce que je fais, c'est un travail. Vous savez qu'il y a des études qui ont été faites par des médecins au niveau des États-Unis. En disant qu'une prédication d'un homme de Dieu pendant une heure correspond à 8 heures de travail. Demandez à toutes les personnes qui sont ointes, quand elles sortent de la dimension de l'onction, elles sont épuisées. C'est comme si tu as travaillé, tu as donné des coups. Bien aimé, c'est un travail dur. Très dur. Au point où, à un certain âge, on recommande à certains prédicateurs de prendre le repos, beaucoup de temps de repos, parce que leur cœur a beaucoup travaillé. Il y a même des prédicateurs qui meurent jeunes. Tellement qu'ils sont actifs dans l'œuvre de Dieu. C'est un travail difficile, qu'on méprise, qu'on ne prend pas en considération. Paul dit, mais non, si on a semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si on recorde des biens temporels? C'est quoi les biens temporels? Des choses matérielles, des choses futiles, des choses qui vont périr, des choses périssables. Mais la parole demeure éternellement. Mais ce que vous avez là, entre vos mains, l'argent, les biens, les vêtements, tout ça, c'est des choses périssables. Et lui-même dira, verset 13, regardez, il dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent des fonctions sacrées sont nourris par le temple et que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Et ceux qui travaillent doivent soutenir l'œuvre de Dieu. Donc quand tu soutiens l'œuvre de Dieu, tu soutiens tout ça. Autre raison pour laquelle on doit travailler, pour avoir un bon témoignage dans le monde. Pour avoir un bon témoignage dans le monde. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 12. On l'a lu tout à l'heure. Tu ne peux pas être un bon témoignage si tu présentes à ce monde, tu n'as rien à présenter à ce monde. Viens à Jésus, mais lorsque tu parles à un avocat de Jésus et que tu veux l'inviter, et s'il arrive ici, il voit que tout le monde ne travaille pas. On est là seulement du matin au soir, Jésus, 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 Jésus. Quel résultat? Zéro résultat. Parce que le résultat, ce n'est pas seulement dans la prière. Alléluia. C'est l'ensemble des choses. On ne les gagne pas. Et on n'est pas un bon témoignage. Quand vous regardez, vous voyez un peu comment est-ce que le gouvernement français, par exemple, considère les églises, étrangères ici. Ils le prennent pour des rigolos. Pourquoi on nous traite de sectes? Ils ont dit, voilà les gens qui n'ont rien à faire, qui n'apportent rien à la société. Il faudrait maintenant que les choses changent, qu'on se dise, je suis chrétien, mais en même temps, j'influence ma société par l'évangile. Je croyais que tu allais dire amen. Alléluia. Donc, ne pas se contenter. Si il faut aller à l'école, va à l'école, instruis-toi, aie des postes clés. Et là, tu pourras leur dire, écoutez, vous là, vous avez de l'argent, vous êtes tout ce que vous êtes, mais il vous manque Jésus. Regardez-moi. Vous êtes un témoignage dans leur milieu. Est-ce que toi, tu peux être un témoignage à l'Élysée? Déjà, tu vas entrer comment à l'Élysée? Est-ce que je me fais comprendre? Pour un témoignage, regardez le ministère de Jésus. La Bible dit que Jésus était entouré de femmes de distinction. Quand vous lisez c'était qui les femmes de distinction, vous allez comprendre. Ce n'était pas n'importe qui. Donc, aie une vision. Une vision lointaine de travail. Amen. Oh, à cause du temps, je vais aller un peu vite. Vous allez voir parmi les disciples, Luc qu'on a lu, la Bible dit que Luc était médecin. Colossiens chapitre 4, vous les lisez. Luc était médecin. Est-ce qu'on peut retrouver les médecins chrétiens? Il y en a de plus en plus. Mais vous allez voir, la majorité des médecins, ils sont dans des confréries. Ils n'ont rien à faire ici. La plupart des juristes, des magistrats, la plupart des hauts cadrés, des hauts cadres, ils sont dans des cercles. Mais s'ils viennent, ils trouvent des chrétiens qui travaillent. Regardez les Nigériens, par exemple. Vous le voyez partout, en Europe, en Amérique surtout. Ils bossent dur, mais vous le voyez avec une vie spirituelle élevée. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les chrétiens d'aujourd'hui, surtout en Europe, on est déséquilibrés. Soit on va se pencher dans le travail et on oublie la prière. Frère, tu es où? Ah non, le travail. Tout le temps, le travail. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que l'homme ne vit pas du travail. Il vit de la parole de Dieu. Dieu demande de travailler, mais il ne te demande pas de négliger son œuvre au détriment du travail. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, le travail ne doit pas prendre toute ta place. D'ailleurs, dans Exode, il a dit, tu travailleras 6 jours. Le 7e jour, tu te reposeras. Ça sera un jour consacré à l'Éternel. Un jour saint. Saint veut dire consacré, mis à part. Tu dois avoir un jour, malgré les jours de travail, où tu viens adorer Dieu. J'ai travaillé dur, je suis fatigué, je me repose. Non, tu dois apprendre. Donc, le temps du repos, c'est un temps où on demeure dans la présence de Dieu. Ça, c'est juste une parenthèse. Pourquoi travailler? Et dernièrement, dernier point, pour finir, comment un chrétien peut-il travailler? Comment? Il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que je reviendrai sur ça un autre jour. Comment un chrétien peut-il travailler? Notez quelques points. Un chrétien doit travailler comme pour le Seigneur. C'est-à-dire, quand tu es au travail, fais comme si tu le faisais pour Dieu. Même si ce sont des païens. Parce que les chrétiens ont un très mauvais témoignage. Ils méprisent les choses. Vous allez voir que la plupart même des employeurs qui embauchent les chrétiens refusent de les employer. Pourquoi? Parce qu'on se dit, bon, admettons le pasteur Douglas, j'ai mes entreprises. Parce que là, je commence à les lancer. Hein. Tu ne dis pas amen? Tu es jaloux, quoi. Alléluia. Maintenant, je t'embauche. Tu as dit quoi? Ah non, lui, comme c'est le pasteur, même si je ne viens pas, ce n'est pas grave. Il va me comprendre. Ah, si, il ne comprend pas. Ah, mais pasteur, il faut pardonner, il faut l'amour. Regardez les raisonnements des chrétiens. Un ami à moi, pasteur, dont je tirais le nom au Congo, il a viré tous les chrétiens qui travaillent avec lui dans son restaurant. Les chrétiens sont moins sérieux. C'est pourquoi on n'avance pas. Vous voyez, les païens sont disciplinés, mais les chrétiens sont indisciplinés. Retard, c'est eux. Négligence, c'est eux. Ils ne viennent pas au travail, ils ne signalent même pas. C'est eux. Non, le patron va comprendre. Dieu va comprendre. Non, tu dois le faire comme pour le Seigneur. Éphésiens chapitre 6, verset 7. Colossiens 3, verset 23. Je vous donne les références. Sois sérieux au travail. Prends ton travail au sérieux. Ne le néglige pas. Éphésiens chapitre 6, verset 7. Colossiens 3, verset 23. Deuxième condition. Comment un chrétien peut-il travailler? Un chrétien doit être honnête et travailler soigneusement. L'honnêteté. Sois honnête. Éphésiens 5, verset 15. Éphésiens 5, verset 15. Sois sérieux. Pas de fraude. Verset 15. Troisième condition. Comment un chrétien peut-il travailler? Il doit travailler paisiblement. Il doit rechercher un environnement où il crée la paix. Et il doit être aussi persistant, consistant, régulier. Pas de négligence. Quatrième point, comment un chrétien peut-il travailler? Dans la soumission. Tu ne dois pas te rebeller au patron. Attends, tu sais, moi je parle la langue. Je peux fermer ton entreprise, rien que... Non, tu n'es pas, t'es pas envoyé là-bas pour fermer les entreprises. Alléluia! Parce que l'onction nous fait pousser les ailes.
et on pense qu'on devient surnaturel alors qu'on est homme. Parce qu'on n'est pas sérieux. On met tout sur le compte de je ne sais pas. Le travail n'est pas spirituel. Est-ce que vous me comprenez? Le travail n'est pas spirituel. Le travail que tu fais là, quand tu vas au boulot là, ce n'est pas spirituel. Donc ça nécessite un minimum de considération, un minimum de respect. Et dernier point, vous allez voir que la manière dont tu travailles, puisque nous avons vu dans Genèse, Dieu a travaillé, il a donné à communiquer à l'homme cette nature de travail. Vous allez voir aussi que ta manière de travailler dans la vie courante, c'est ça qui va être transposé dans l'œuvre de Dieu. Toutes les personnes qui ont du mal dans la vie courante avec le travail ne pourront jamais. La raison pour laquelle vous allez voir Dieu ne jamais appeler des gens qui ne travaillaient pas. Moïse, il était d'abord berger. Et son beau-père, Jéthro. Et Dieu l'a appelé ensuite pour qu'il devienne berger d'Israël. Paul était pêcheur. Jésus lui dit, suis-moi et je ferai de toi pêcheur d'hommes. Quel travail tu fais? Alléluia. Alléluia. On doit se battre. Est-ce que c'est clair? Alors, qui sont ceux qui ne travaillent pas, qui veulent travailler? Levez-vous. Ceux qui ne travaillent pas, qui veulent travailler, levez-vous, venez devant. Non, ça c'est après. Non, je dis ceux qui ne travaillent pas et qui veulent travailler. Ok. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux, tous, s'il vous plaît? Nous allons lever nos mains vers nos frères et sœurs et nous allons prier pour eux. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons dans l'oisiveté. Le Seigneur ne veut pas non plus que nous soyons dans le chômage. Il y en a certainement qui vont chercher, mais qui ne trouvent pas. Mais avec l'onction de Dieu, les portes vont s'ouvrir. Levez vos mains. Seigneur, dans le nom de Jésus, je viens prier pour mes frères et sœurs, maintenant même. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que en sortant d'ici, que quelque chose se passe dans leur vie. Je viens, Seigneur, ouvrir la porte du travail dans leur vie. Comme tu as dit dans ta parole, il n'y aura point d'indigent parmi le peuple de Dieu, qu'il n'y ait point d'indigent parmi ton peuple. Seigneur, qu'ils reçoivent au nom de Jésus-Christ. Là où on a dit c'est impossible, là où on a dit, Seigneur, que cela ne peut pas se produire, je change les choses dans le domaine spirituel maintenant au nom de Jésus-Christ. Et j'appelle cela dans leur vie. Que la grâce de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.